Bonjour et bienvenue sur le blog de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui est le corollaire du nouvel article que vous retrouverez sur le blog qui s'intitule « Comment améliorer son estime de soi ». Alors comme vous le savez, l'estime de soi est au cœur de notre homéostasie psychologique et de notre bien-être tout simplement. Et malheureusement, nous ne sommes pas tous nés avec une estime de soi suffisamment stable et d'un niveau correct. J'entends par là d'un niveau ni trop bas ni trop élevé. Les psychiatres Christophe André et François Lelord, dans leur ouvrage « L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres », nous propose un plan d'action afin de modifier notre estime de soi avec trois axes principaux. C'est un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié et que je vous recommande si vous cherchez à vous documenter sur l'estime de soi et à travailler éventuellement votre propre estime de vous-même. Alors, quels sont ces trois axes ? Le premier axe est celui de changer son rapport à soi-même. Le second est celui de changer son rapport à l'action. Et le troisième est celui de changer son rapport aux autres. Dans ce podcast, moi je souhaiterais revenir un peu plus en détail sur le second axe et j'aimerais vous rapporter leur stratégie à mettre en place afin de s'engager dans l'action, puisqu'il s'agit de changer son rapport à l'action et donc de s'engager forcément dans l'action, d'arrêter d'être dans la non-action. Cet engagement dans l'action, c'est l'étape centrale que l'on retrouve également dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT, que j'apprécie tout particulièrement. Pour changer son rapport à l'action, ces deux psychiatres vous proposent trois clés. La première est celle d'agir. La seconde est celle de faire taire son critique intérieur. Alors moi, je dirais plutôt que de le faire taire, d'apprendre à le repérer, d'apprendre à le reconnaître et à le critiquer. Et s'il est difficile de le critiquer, au moins de le laisser parler dans son coin, sans croire à ses scénarios autocritiques et parfois à ses scénarios catastrophes. La troisième clé est celle d'accepter l'idée de l'échec. Et oui, parce que pour changer, vous l'avez compris, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il ne faut pas avoir trop peur de l'échec. En tout cas, il faut accepter l'éventualité de pouvoir échouer. Dans ce podcast, je souhaite revenir plus en détail sur la première clé, qui est celle de l'action. Vous l'aurez compris, il va donc s'agir de passer à l'action. En effet, chaque action dans laquelle vous allez vous engager permet d'entretenir en quelque sorte l'estime de soi. Et une action aussi minime et simple soit-elle. C'est l'inaction qui est finalement l'une des pires ennemies de l'estime de soi. Alors finalement, se mettre à accomplir ses tâches ménagères au quotidien, ça peut sembler être une simple corvée supplémentaire qui n'a pas d'intérêt et qui pourrait uniquement nous fatiguer, nous donner une surcharge de travail, de choses à faire. Mais en fait, rappelez-vous qu'au contraire, ces petites actions quotidiennes sont un moyen d'entretenir votre estime de soi. Et d'ailleurs, vous pourriez faire le test chez vous. Après avoir fini de faire la vaisselle, par exemple, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, la sensation de vous sentir un petit peu mieux, le fait d'avoir accompli quelque chose. La non-action, elle est donc à fuir. Mais toutefois, faites attention à ne pas vous noyer sous un flot de petites actions sans importance qui auraient finalement pour but de vous détourner des actions réellement urgentes et importantes à réaliser. Imaginons que je passe ma matinée à décorer mon bullet journal ou à trier mes cours encore et encore pour la énième fois. Au lieu de les apprendre correctement, de m'y mettre sérieusement, cela ne m'apportera aucun bénéfice sur l'estime de soi et surtout sur ma productivité. Donc tout projet de changement doit être automatiquement suivi d'une action, aussi minime soit-elle. Si vous changez uniquement dans votre tête, ça n'aura aucun impact positif sur votre estime de soi. Alors, passons au côté un petit peu pratico-pratique que nous conseillent ces auteurs pour passer à l'action. Quelles sont les étapes qu'ils nous recommandent de mettre en place, sachant que j'ai quand même rajouté des notions que j'utilise personnellement au sein de ma consultation et que je n'ai pas trouvées dans cet ouvrage, mais au cours de différentes formations. Première étape, transformer votre façon de penser. Le but est d'échanger vos plaintes. J'en ai marre. En objectif. J'aimerais. C'est un exercice de reformulation qui est vieux comme le monde, mais qui a le mérite d'être simple à réaliser et surtout qui a le mérite de fonctionner. Donc effectivement, on va remplacer nos sempiternels « j'en ai marre » par des « j'aimerais ». Et pour ce faire, le but est finalement de se demander quels sont les besoins, nos besoins légitimes qui se cachent derrière ces « j'en ai marre ». Derrière ces émotions inconfortables et douloureuses que peuvent être la tristesse, l'envie, la colère, la peur ou encore la jalousie. Le but est de rechercher une solution à notre plainte et de nous fixer des objectifs. Alors justement, la deuxième étape consiste en choisir des objectifs qui sont à la fois réalistes et adaptés. Alors c'est un point qui est capital, il va falloir se fixer des objectifs, certes, mais ces objectifs, ils doivent être réalistes et adaptés. Parce que si ce sont des objectifs qui sont inadaptés, finalement, ça sera la première cause d'échec. Et même si, on l'a vu, il est important d'apprendre à mieux tolérer l'échec, il n'y a aucun intérêt à foncer droit dedans en vous fixant un objectif inadapté. Alors, un point capital dans la mise en place d'un objectif à toujours bien garder en tête, et moi c'est quelque chose, c'est une distinction que j'utilise énormément au sein de ma consultation lorsque je réalise des séances d'actes thérapie, c'est la distinction d'Épictète. De manière simplifiée, que dit cette distinction? Il y a des actions qui ne dépendent que de nous et dans lesquelles nous devons nous engager avec courage. Il y a des actions qui ne dépendent pas que de nous et qu'on doit accepter. Avec force, dirons-nous. L'objectif étant d'avoir l'intelligence de faire la différence entre les deux. C'est le fameux télos et scopos des philosophes stoïciens. Le scopos, qui correspond au résultat de l'action, ne dépend pas que de nous. Je peux par exemple inviter une amie au restaurant. L'action de demander de l'inviter ne dépend que de moi. Par contre, sa réponse, bien évidemment, ne dépend pas que de moi. Et effectivement, elle pourrait décliner cette invitation. Alors que le télos correspond à la qualité des efforts que je mets dans l'action engagée. Et le télos ne dépend que de moi. Pour reprendre notre exemple, c'est la manière avec laquelle je vais inviter mon ami au restaurant. Le but est donc d'agir au mieux pour ce qui dépend de nous. Et en quelque sorte de s'en remettre à la providence pour ce qui ne dépend pas que de nous. Et surtout, d'accepter ce qui ne dépend pas que de nous. Je pense que c'est vraiment un point à garder en tête, cette distinction entre ce qui dépend uniquement de nous et dans ces actions dans lesquelles nous devons nous engager avec courage, y mettre beaucoup d'énergie, d'investissement, et puis celles qui ne dépendent pas que de nous. Autre critère dans le choix d'un objectif adapté, c'est celui de la reproductivité de l'action considérée. Il est préférable de choisir une action que l'on pourra répéter régulièrement. Par exemple, je vais m'accorder une fois par semaine le temps de prendre soin de mon corps, de pratiquer un automassage, de me faire un gommage, un masque, une manicure, plutôt qu'une action qui ne pourra être réalisée que rarement. Pour le commun des mortels, tout du moins, par exemple, s'offrir une semaine de vacances à une retraite spirituelle à Bali, par exemple. Donc effectivement, il est important de se choisir un objectif qui va pouvoir être répété régulièrement. Autre critère pour se fixer un objectif adapté et réaliste, c'est que cet objectif doit être précis, ce qui va vous permettre notamment de pouvoir visualiser les actions à engager pour atteindre cet objectif. Donc c'est au lieu d'avoir finalement un objectif un peu trop général qui restera flou et peu applicable. Par exemple, si je me dis que j'ai comme objectif de prendre soin de mon corps, cela reste trop vague et large pour que je ne puisse clairement en dégager les actions à mettre en place. Il vaudrait donc mieux préciser plusieurs objectifs allant dans le sens de cet objectif plus général. Par exemple, je vais aller marcher 3 fois dans la semaine. Ou encore, je vais faire une séance de yoga tous les mardis et tous les jeudis soirs. Ou encore, je vais me faire un soin du corps tous les dimanches après-midi. Autre caractéristique de cet objectif, il doit avoir un réel intérêt pour vous. il va falloir faire la différence entre un objectif qui a un intérêt pour vous et un autre qui en présente très peu. Et pour ce faire, préalablement, vous allez devoir clarifier vos valeurs, ce qui est réellement important pour vous dans votre vie, afin de savoir finalement quelle direction vous souhaitez donner à votre vie et donc identifier par la suite les objectifs à mettre en place qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos valeurs. Titre d'exemple, nul besoin de vous inscrire à des cours de cuisine si cela ne présente que peu d'intérêt pour vous. Enfin, je terminerai par un point qui me semble évident, un objectif que vous allez vous fixer doit être réaliste pour vous éviter d'aller droit dans le mur. Gardez les pieds sur terre, vous ne deviendrez pas une gourou sur les réseaux sociaux du jour au lendemain et d'ailleurs peut-être jamais. Mais vous pouvez par contre vous fixer comme objectif d'ouvrir une chaîne YouTube, de créer un blog et d'y publier du contenu qui vous correspond, qui vous passionne, afin de le partager avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt ou les mêmes centres d'intérêt que vous. Troisième étape, afin d'agir, se créer des étapes intermédiaires justement. J'aime bien utiliser la métaphore des trois zones pour définir finalement les actions à mettre en place et notamment la théorie du plus petit pas. Le plus petit pas que vous pourriez faire pour vous sortir de votre zone de confort. Alors certes, hein, dans cette zone de confort, vous êtes en sécurité, mais finalement rien ne se passe. La vie n'est pas passionnante. Et ce plus petit pas qui vous permettrait de tendre vers ce que l'on appelle en thérapie ACT la zone où la magie opère. Cette vie rêvée, la personne que vous rêveriez d'être, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors, inutile de vouloir faire un saut à l'élastique de la zone de confort vers la zone où la magie opère. Le but, c'est vraiment de s'engager dans l'action, certes, mais dans une action tout en prenant soin de vous. Parce que s'engager dans une action où le niveau de reconfort ressenti est trop important, ça risque de rendre justement le passage à l'action complètement aversif et finalement ne pas vous donner envie de reproduire ce passage à l'action. Donc on en revient encore une fois à cette notion d'objectif réaliste. Il va être important d'être capable de faire un état des lieux de votre situation actuelle sans jugement, en toute objectivité. Il y aura donc d'une part la réalité de l'instant présent, l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, à l'instant T, et tout au bout du chemin, votre vie rêvée. Il va falloir insérer entre le point de départ et la ligne d'arrivée différentes étapes intermédiaires afin de finalement vous indiquer les petites actions à mettre en place, le plus petit pas à faire, jour après jour, pour vous rapprocher de cette ligne d'arrivée. Rassurez-vous, Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors, à titre d'exemple, si votre situation professionnelle actuelle ne vous satisfait plus, que vous vous ennuyez dans votre travail et que dans votre vie rêvée, vous auriez un travail passionnant et hyper stimulant intellectuellement, cela ne vous avancera pas à grand chose finalement de vous arrêter à ce constat. Au contraire, ça pourrait vous miner encore plus le moral. Donc l'idée va être finalement de vous fixer des étapes intermédiaires entre ces deux points. Aujourd'hui, mon travail est absolument ennuyant et j'aimerais avoir un travail absolument passionnant. Et on va donc essayer de voir quelles seraient les plus petites actions que vous pourriez mettre en place pour vous rapprocher de cette ligne d'arrivée, pour vous rapprocher finalement de cet plus grand objectif. Par exemple, dans ce cas précis, on pourrait imaginer que vous pourriez dans un premier temps vous lancer dans une formation par correspondance ou dans des cours du soir, dans un domaine qui vous passionne, afin de préparer progressivement votre transition professionnelle. Alors, nous parlerons plus en détail des deux autres clés pour modifier votre rapport à l'action dans un prochain article, c'est-à-dire critiquer ou repérer et faire taire le critique, justement votre critique intérieure, et dans un second temps, accepter, apprivoiser l'échec. En attendant, je vous invite fortement à vous procurer l'ouvrage donc, des docteurs André et Lelord sur l'estime de soi. Je vous mettrai le lien Amazon sur le blog, et puis dans l'onglet « Mes lectures ». À votre santé !